Frères et sœurs, chers amis, un homme aveugle, assis au bord du chemin, et Jésus qui passe, toujours en marche, toujours en mouvement, toujours lumineux. L'homme a entendu parler de Jésus. Il sait. Il sait que Jésus peut le sortir de l'isolement où le confine son infirmité. Il appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens autour de lui veulent le faire taire, ils se révoltent. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus demande qu'on appelle cet homme et non qu'on le cache ou qu'on l'ignore. L'homme se lève d'un bond et jette son vêtement. Son vêtement, c'est sa condition présente. Il n'en veut plus. Il la rejette. Il est déjà en mouvement. Les paroles de Jésus sont fort simples. Ta foi t'a sauvé. On peut comprendre aussi ta foi t'a guéri. En grec, c'est le même verbe. C'est la même chose, la même plénitude. Et cette rencontre fait surgir en forme de proclamation l'essentiel du message évangélique, la foi sauve. C'est un court récit en trois temps. Bartimée se révolte contre l'exclusion à laquelle la société le condamne du fait de son infirmité. Deuxième temps, Bartimée est guéri par sa foi. Et enfin, Bartimée rejoint Jésus et la communauté des disciples. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Réformation. Le dernier dimanche d'octobre de chaque année a été choisi pour être l'occasion de la commémoration du geste fait par Martin Luther le 31 octobre 1517, il y a 501 ans. Ce jour-là, il afficha sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg les 95 thèses contre les indulgences. Le château de Wittenberg, c'était une faculté de théologie. Et la chapelle servait d'amphithéâtre. Et la porte de la chapelle servait de panneau d'affichage. Et finalement, ce que fait Luther, il affiche le programme du semestre. Ce geste, qui aurait pu être banal et universitaire, allait avoir des répercussions considérables. Il est considéré par beaucoup comme le coup d'envoi d'un processus qui sera appelé plus tard la Réformation. Martin Luther, ou un Augustin devenu professeur, y jouera un rôle éminent. L'effet produit par le déclenchement de la dispute sur les indulgences n'aurait sans doute pas eu une telle fulgurance si les esprits n'avaient pas été préparés à l'idée même d'une réforme en profondeur. Je vous propose d'examiner les grands traits de la réforme et de les rapprocher de notre texte du jour, des gestes inaugurés par Jésus lui-même. En premier point, la réforme apparaît sans aucun doute, tout d'abord, comme un geste de révolte contre les représentations religieuses et intellectuelles de son temps. La réforme se confronte, à la tradition de l'Église, à sa lecture du passé, sa compréhension du monde, sa référence parfois aveugle aux anciens, ses coutumes liturgiques et religieuses, ses passages obligés, ses maîtres et ses dogmes, qui finalement s'imposent au détriment de l'étude de la Bible. Les réformateurs se heurtent à un message réduit à l'époque à un ensemble de prescriptions morales. La présentation de l'Évangile n'est pas porteuse d'une véritable bonne nouvelle pour les croyants, mais c'est trop souvent l'exposé d'un code, d'un cadre, d'une loi. La clé qui permettra de trouver une solution à cette confrontation sera le recours à l'intelligence critique concernant la lecture de la Bible, au renouvellement de sa lecture, à sa mise en œuvre et un immense travail d'interprétation et de compréhension à commencer. Et finalement, à la prise en compte de ce texte comme la référence essentielle, critique et souveraine pour ce qui concerne la réflexion de la foi chrétienne. La réforme entraîne avec elle tout un cortège de choses qui ne sont pas tout à fait terminées encore. Par exemple, un processus de pédagogie chrétienne qui se manifeste par l'enseignement pour le plus grand nombre de la lecture et de l'écriture avant d'être illettré. La valorisation de l'écoute et de la prédication, l'organisation de controverses théologiques, la rédaction de confessions de foi et une formation universitaire plus poussée des cadres de l'Église. Et la clé de tout cela se résumera en une formule latine bien connue, sola scriptura. L'écriture seule, comme référence pour tous en matière de foi. Cette révolte de l'Église fait écho à la révolte de Bartimée, qui ne se résigne pas au rôle d'exclu que la tradition de son époque réserve aux infirmes et aux malades. Le deuxième geste de la réforme est un geste de libération de la conscience personnelle. L'évangile de Jésus-Christ libère désormais le croyant. Il le délivre du joug de l'obligation imposée par une Église, du croire et du faire. Il le délivre de l'obligation d'obéissance aux lois de l'Église et à ses usages, et lui donne définitivement la joie d'une tranquille liberté. La nouveauté, c'est l'affirmation d'une intériorité humaine et d'une conscience imprenable, qui se vivent comme étant créées par l'Esprit Saint et se trouvent rendues libres de toute servitude. Se fait jour aussi, d'une certaine manière, l'événement de la naissance de l'individu, de la personnalité libre en conscience, de la personne du croyant qui ose dire et prononcer un « je » libre et responsable devant le monde et devant Dieu. La clé de cette nouveauté, c'est la mise en avant de manière prééminente de la foi, une foi qui libère, qui justifie et qui devient la seule voie d'accès au royaume, la foi seule. Sola fide. Cette mise en avant du rôle de la foi fait écho à la guérison de Bartimée par sa foi. Le troisième geste de la réforme est un geste de construction et de communion. Elle instruit le fidèle selon les Écritures, elle entreprend de célébrer le culte autrement. Chacun, désormais, peut trouver une place dans l'Église, nouvellement dressée, reformée, reformatée, réformée selon l'Évangile, où tout est disposé selon la grâce de Dieu. Ce geste de construction est avant toute chose un geste de communion, une communion qui tient les fidèles ensemble en Christ, qui désigne et définit précisément l'Église comme étant l'assemblée des croyants et non plus une institution. Une assemblée qui, en Jésus-Christ et selon sa volonté, proclame l'Évangile et célèbre les sacrements. La clé de cette construction est la grâce de Dieu, sa seule grâce, sola gratia. Car par elle, tout est déjà donné, la foi, le salut, l'espérance et la communion de l'Église, où chacun et chacune est à équidistance de Dieu. Cette nouvelle communauté de croyants fait écho à Bartimée, qui rejoint Jésus et devient membre de la communauté des disciples. J'en viens maintenant à une évocation qui sera trop rapide mais indispensable, des défis que notre Église d'aujourd'hui doit relever. Ils sont nombreux, mais je n'en retiendrai que trois. Le premier est l'éloignement de la lecture de nos contemporains, et en particulier de la lecture de la Bible. Nous perdons de vue que le monde a toujours été, mis à part de courtes périodes d'euphorie, incertain et terrifiant. Le présent et le court terme sont désormais prééminents. La valeur du temps présent écrase la mémoire transmise et discrédite par avance tout discours d'espérance. On peut voir là une explication au pessimisme ambiant. Heureusement, nous avons une antidote. La prise de recul, l'utilisation des Écritures comme grille d'interprétation de notre vécu. Et il nous faut défendre, vraiment défendre, cette référence essentielle d'un témoignage écrit décisif, indispensable. L'Écriture seule, sola scriptura. Le deuxième défi et la fragilisation de l'individu ou de la personne humaine. On ne peut se résoudre à la mise en cause de la dignité humaine et de son statut de créature de Dieu. On ne peut se borner au constat de l'émiettement de nos vies et de la fragilisation des êtres. On ne peut se résigner à voir l'individu victime de burn-out ou de dépression et qui perd confiance. La tendance du monde post-moderne, qui est le monde où nous vivons, c'est la rupture avec toutes les attaches, la rupture avec un cadre de référence chrétien. Et nous refusons de voir l'homme laissé pour mort sous l'éboulement des valeurs et des principes. L'homme est au cœur de la création et se trouve appelé au salut en Christ. C'est par la foi qu'il est sauvé, par cette foi seule, qui est une confiance sans faille que Christ lui donne de connaître, celle d'un Dieu qui n'abandonne jamais aucune de ses créatures et qui les désire libres et responsables, impardonnables certes, mais pardonnés. La foi seule, sola fide. Le troisième défi est constitué par l'accumulation des menaces et des dangers sur notre monde. Il nous ramène, pour sa part, à l'urgence évangélique, qui est celle de la vigilance, de la dénonciation et de l'espérance. Vigilance devant les périls des guerres et des violences entre les peuples et les hommes. Dénonciation des injustices et des souffrances reçues ou infligée, et espérance d'un royaume qui vient. Espérance dans une grâce infinie, la seule grâce qui, depuis Noé et l'apparition de l'arc de l'Alliance dans les cieux, nous assure qu'il n'y aura plus jamais de déluge, ni aucune autre catastrophe globale, pas plus nucléaire que climatique. La grâce seule, sola gratia. Comme conclusion, je dirais que la réforme, pour sa part, ose reprendre à son compte les gestes de Jésus. Elle veut replacer au cœur de son message l'Évangile qui donne sens à chacune de nos vies et fait découvrir le salut à quiconque croit en lui. Par son geste de confrontation avec une tradition qui paralyse et qui aveugle, par son geste d'insurrection d'une conscience libre, par son geste de construction d'une communauté de disciples au cœur du monde sans cesse en mouvement, et par l'invitation qu'elle lance aux chrétiens, la réforme fait signe aujourd'hui à un grand nombre. Elle atteste de sa foi dans ses célébrations et elle espère en confiance le royaume qui vient. Amen.